Alphonse Karr, Bourdonnement, fragment 3. Or, la corruption et l'avilissement du langage sont les causes ou les effets, mais à coup sûr les signes, du relâchement et de l'abaissement des esprits. Les Grecs disaient « on parle comme on vit » et Sénèque « partout où vous verrez que l'on tiendra et que l'on aimera un langage corrompu, ne doutez pas que les mœurs n'y soient dépravées. Ubicumque wideris orationem corruptam placere, ibi mores quoque arecto divicisse non erit dubium. » Une autre cause contribue à faire perdre au langage français cette urbanité, cette finesse dans la plaisanterie et l'ironie qui, lorsqu'elle blessait, faisait du moins des blessures honnêtes et propres. On se piquait, on se perçait avec de belles épées de pur acier. Aujourd'hui, on se sert d'instruments que la justice appelle contondants, de bâtons, de marteaux, de pierres qui meurtrissent et font des bleus comme le coup de poing reçu l'autre jour par votre gambetta ou le mauvais couteau rouillé, ébréché, etc. Cette autre cause est dans les journaux. Certes, la presse compte un certain nombre d'écrivains distingués, experts dans la science de bien dire, maîtres de leur plume, mais combien en échange remplissent les journaux de leur prose, qui n'ont fait aucune étude de l'art d'écrire, qui remplacent les arguments par les injures et la dialectique par la grossièreté. Il en est de même dans les clubs, dans les réunions soi-disant politiques, etc. D'autre part, on ne lit plus guère que les journaux dont les meilleurs prétendent pour le moins des spécimens de négligence, qui s'expliquent par la nécessité de l'improvisation. La langue, la belle langue française s'altère, se corrompt et menace de se perdre. Le spectacle qu'ont présenté tour à tour ces jours derniers et l'Assemblée des représentants de la France et les gardes de chemin de fer, où nous avons vu l'éloquence de la tribune dégénérée par une pente douce et naturelle en coups de poing et en coups de canne, n'était pas précisément ce qu'on appelle un joli spectacle. Mais ce pourrait, ce devrait être un spectacle édifiant et instructif. Maître Gambetta, soutenant au tribunal qu'il n'a reçu que un coup de poing, quand M. de Sainte-Croix affirme lui avoir donné un soufflet, rappelle M. de Talleyrand recevant un soufflet de Montreuil et s'écriant à l'instant même « Ah ! Quel coup de poing !» Les délicats, s'ils consentaient à se mêler de cette affaire mal commencée et mal conduite, diraient que l'intention de donner un soufflet suffit pour consulter l'insulte, et que, entre gens bien élevés, parmi lesquels les soufflets donnés et surtout les soufflets reçus sont extrêmement rares, il suffit, dans les cas extrêmes, que l'insulteur, chose peu ordinaire, fasse un geste de la main ou du gant pour que son adversaire, d'un mot ou d'un autre geste, fasse comprendre qu'il tient le soufflet pour reçu et que l'affaire regarde des témoins. Quant à la proposition qui paraît ne pas aboutir d'une liste de 10 combattants, elle est renouvelée des Horaces et des Curiaces, du combat des 30, etc., et très près de nous, lors de l'emprisonnement à Blaye de la duchesse de Berry, les chevaliers de la duchesse de Berry envoyèrent une liste au national, affaire qui fut arrêtée par l'annonce officielle de la grossesse de la duchesse. M. Clémenceau, demandant raison d'une insulte faite à Maître Gambetta, me rappelle La jolie fille de Perth, ce beau roman de Walter Scott que je citais il y a peu de temps. Il y a là encore un combat de clan contre clan et un terrible combat. Le clan Chatham contre le clan de Kerel, 30 contre 30. Le clan Kerel a pour chef un jeune homme, Hitchin, élevé loin des montagnes, de la chasse et des exercices guerriers. Son tempérament, plus fort que sa volonté, lui refuse la farouche valeur de ses compagnons et de ses adversaires. Mais son père nourricier, le géant Torquille du Chêne, l'entourant avec ses 8 fils, qui ne sont pas approchés de lui, le terrible armurier Henri, crie à ses fils « Mourez pour Hitchin !» Puis à mesure qu'un des gardes du corps est renversé, Torquille s'écrie « Un autre qui meurt pour Hitchin !» Ils sont tous tués, et alors Hitchin gèle ses armes, se précipite dans la rivière et se sauve, peut-être à Saint-Sébastien. On aime à s'en prendre à ses ennemis de ses calamités, de ses déboires, mais le plus souvent, il serait plus juste et plus vrai de se les attribuer à soi-même. Tous les partis, tous les gouvernements périssent par leurs ultras. À peine rentré en France, derrière les baïonnettes étrangères, Louis XVIII dut en ressortir. Pourquoi ? Bien voilà ce que disait un bon Français de ce temps-là. Les Bourbons, ça retourne, parce que, au lieu de rentrer chez nous, ils ont voulu rentrer chez eux. En 1816, remonté de nouveau sur le trône, Louis XVIII se plaignait de ses amis et prenait des précautions contre eux. Le comte de Cazes, ministre de la police générale, père, je crois, du duc actuel, qui doit être comte de Cazes et duc de Glücksberg, écrivait au préfet, au nom du roi, le 12 septembre, il les engageait à surveiller et à écarter les belles castels et les daïrelles de ce temps-là. Des amis insensés, qui ébranleraient le trône en voulant le servir autrement que le roi ne veut l'être, qui dans leur aveuglement osent dicter des lois à la sagesse et prétendent gouverner pour lui, le roi ne veut aucune exagération. À cette même époque, un préfet recevait l'ordre de repousser des élections. Messieurs tels et tels, et notamment monsieur le marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean, comme trop royalistes. J'ai sous les yeux une lettre du marquis où il s'en plaint. On répondait à profusion, et le gouvernement n'était pas étranger à cette propagation, un écrit où on lisait « Il y a des gens qui voudraient le roi sans charte, le rétablissement des privilèges, des fruits et oubliés, l'anéantissement des institutions libérales qui aspirent à faire reculer l'opinion d'un demi-siècle, à replacer la France sous un ordre de choses dont les éléments n'existent plus. » Mais cela peut se répéter aujourd'hui, mais avec 2 différences, l'une petite, l'autre grande. La première, que, au lieu de 1/2 siècle, il faut dire presque 1 siècle. Et la seconde, c'est qu'il faut mettre le roi, M. de Chambord, au nombre de ceux qui sont trop royalistes et qui n'ébranlent pas le trône par cette seule raison, qu'il n'y a pas de réel trône et qu'il rend impossible d'en élever un. C'est offenser un musulman que de lui demander les nouvelles de ses femmes. Sans aller tout à fait aussi loin dans la réserve à l'égard du beau sexe, il a été longtemps en France considéré comme une règle, dans la bonne compagnie, de ne pas parler d'une honnête femme dans un lieu public. Une femme ne se serait pas facilement consolée d'apprendre que son nom avait été lu dans un journal. Et si cela était arrivé par hasard, le journaliste aurait dû faire réparation au mari, au frère ou au fils de la femme offensée. Je ne veux pas parler du temps où le gazetier eût été bâtonné par la livrée et n'eût pu obtenir que M. le duc 3 étoiles ou le marquis 4 étoiles condescendît à lui donner satisfaction les armes à la main. C'était alors une forme terrible et écrasante du blâme de dire une femme « elle fait parler d'elle ». On ne prenait pas la peine d'expliquer si c'était en bien ou en mal, il suffisait qu'on parlât d'elle et qu'il y eût donné lieu. Il n'y avait alors aucune chance pour une honnête femme d'être connue du public. Tout cela a changé aujourd'hui. Est-ce mieux? J'en doute beaucoup. Les femmes y ont-elles gagné? Je suis convaincu du contraire. À qui la faute? On ne risque guère de se tromper en attribuant à peu près toujours un sexe les fautes et les sottises de l'autre. On a cité le mot d'un chef de la police qui, lorsqu'un crime lui était dénoncé, demandait « Où est la femme ?» En effet, presque toujours, les crimes des hommes sont commis non pas précisément à l'instigation des femmes, mais pour les femmes ou à propos des femmes. Quant à elles, elles ne nous font pas tant d'honneur, elles ne font guère pour nous que des sottises. Il paraît évident que la vie des cercles qui laissaient les femmes seules à la maison est ce qui leur a donné l'idée d'en sortir elles-mêmes. Ah, il y a encore la question des courtisanes. Sous la Régence et sous Louis XV, époque qui ne brillait pas précisément par la sévérité des mœurs, il y avait un certain nombre d'impures en renom. Elles étaient richement entretenues par de grands seigneurs ou des financiers que cela ne ruinait pas, du moins pour la plupart, et qui ne prenaient pas sur le train de leur maison et les dépenses de leurs femmes. Ceux qui payaient ces impures étaient loin de les traiter sur le pied de l'égalité. Elles faisaient partie de leur domesticité. On disait « Là, une telle appartient en ce moment au duc de Trois Étoiles, au traitant un tel, à l'évêque de... » Elles ne se piquaient pas, je pense, de fidélité, mais alors être ce qu'on appelle aujourd'hui leur amant de cœur, et ce qu'on appelait alors leur greluchon, c'est-à-dire se servir d'elles sans les payer, était réputé assez honteux pour que l'entreteneur en titre ne daignât pas s'en offenser ou se crût suffisamment vengé par l'humiliation de son rival clandestin. Elle ne trouvait guère d'ailleurs ces délassements de leur cœur qu'avec des hommes de leur classe. On l'a dit avec raison, il y avait dans les mauvaises mœurs et le mauvaise compagnie de ce temps-là encore quelque chose qui manque aux bonnes mœurs et à la bonne compagnie d'aujourd'hui. Il est rare aujourd'hui qu'une de ces filles soit entretenue par un seul homme. On a appliqué à leur industrie l'idée qui a présidé à la création des cercles. Un grand nombre de gens, moyennant une rétribution relativement insignifiante, jouissent dans un local commun d'un luxe que presque aucune ne pourrait se procurer chez lui avec sa fortune personnelle. Grâce à l'association, on a sa part des faveurs d'une femme, richement vêtue, magnifiquement meublée, ayant des diamants, une maison montée, des chevaux, des voitures, etc., dont chacun ne paye qu'une part minime, et jouit entièrement pendant le jour, l'heure ou le quart d'heure que lui rapporte son nombre d'actions, et il est convenu que ce n'est plus ni honteux ni répugnant. Le bon marché relatif apporté par la coopération à l'amour vénal a dû multiplier singulièrement le nombre de ses filles, et en augmentant dans une proportion encore plus forte le nombre des gens qui vivent avec elles, leur faire une large place dans la société. Un élément nouveau est venu modifier encore leur situation. Certains journalistes, m'assure-t-on, un très petit nombre, oh, je veux absolument le croire, tiennent à honneur d'être actionnaires sans débourser, d'être aimés pour eux-mêmes, de souper chez elles et avec elles aux dépens des actionnaires payants, ou du moins... Ils les paient, eux, en renommée et en gloire. Ils mentionnent leur présence aux premières représentations, aux courses, etc. Ils vantent leur beauté, décrivent leur toilette. Les annonces leur font des réclames et achalandent leurs boutiques dans lesquelles ils ont un certain intérêt. Aussi, aujourd'hui, tout le monde les connaît. Les honnêtes femmes les regardent, les examinent, en parlent, blâment ou louent leur parure, s'informent de leurs couturières, de leurs marchandes de mode, et s'efforcent de les imiter, c'est-à-dire d'accepter une lutte où elles sont nécessairement vaincues, irritées, humiliées, car la plus honnête femme du monde ne peut guère ruiner qu'un mari et un amant, tandis que ces impures lèvent des impositions et perçoivent des tributs et des droits sur le public tout entier. La foule, le vulgaire, confond facilement la célébrité, la famosité, avec la renommée, avec la gloire. Les femmes du monde ont senti de l'humiliation, de la notoriété donnée aux courtisanes. Et quoi ? On fait savoir à l'univers que cette fille est jolie, bien faite, qu'elle a les yeux noirs, les cheveux rouges, qu'elle est habillée de telle ou telle façon, qu'elle assistait à la première représentation de telle pièce de Dumas ou de Feuillet. Mais j'y étais aussi à cette représentation. Et il me semble que je suis au moins aussi jolie qu'elle. Et si j'avais une robe charmante et une coiffure délicieuse, et tous les regards auraient été pour elle, j'aurais été là comme si je n'y avais pas été, on n'aurait pas daigné me remarquer, m'apercevoir. Du moins, c'est ce que doivent penser les lecteurs de journaux dans toute la France et dans le monde entier. De là, le désir ardent qui s'empare d'un certain nombre de femmes du monde. Elles veulent qu'on parle d'elles, elles veulent lire aussi leurs noms dans les journaux. Elles veulent que les lecteurs de ces feuilles sachent qu'elles aussi sont jolies et bien mises. Quelques-unes donnent des fêtes, des soirées, des bals, des raouts, instituent des loteries de bienfaisance, où elles ont soin d'avoir quelques journalistes pour lesquels elles font des frais particuliers, et le lendemain, elles brisent fiévreusement la bande du journal et cherchent leur nom. Leur nom imprimé. Quelques-unes, les timides, disent encore « C'est ennuyeux, les journaux, on ne peut plus faire un pas sans y lire son nom. » Mais que le journaliste ne les ait pas nommées, décrites, détaillées, il pourra attendre en vain une nouvelle invitation. Les moyens de paraître sont nécessairement variés. Un des moyens les plus ambitionnés est d'écrire. On intrigue pour glisser un article dans une revue, le plus souvent sous un pseudonyme, non par pudeur, mais par coquetterie, par raffinement. C'est un voile de plus à laisser lever, et on le laisse lever par tout le monde. Un voile qu'on dérange soi-même si on ne réussit pas à trouver des audacieux, des insolents. Telle autre femme a adopté la partie des bons mots, des mots hardis, des mots risqués. Telle autre se contente de ne porter que les modes d'après-demain. On veut être vu, on veut être imprimé. On se monte partout. Et s'il se passe un mois pour les unes, une semaine pour les autres, sans qu'elles aient vu leur nom imprimé, elles s'évertuent à chercher par quelle nouvelle audace, par quelle nouvelle extravagance, elles peuvent réveiller la publicité paresseuse, indifférente, fatiguée, blasée ou endormie. La pudeur des femmes ne consiste pas seulement dans les vêtements. Leur vie aussi a sa pudeur et doit avoir ses voiles comme leur corps. Si la beauté de la femme est l'ornement de la maison, sa vertu, sa chasteté, sa réserve sont des roses qui l'embaument et la parfument. La femme qui vit dehors rentre à l'état de rose sur laquelle on a marché, heureuse si elle n'a fait que perdre son parfum, et si elle ne rapporte pas des odeurs suspectes. Une lectrice m'interrompt. « Mais monsieur, la vie que vous voulez nous imposer serait parfaitement ennuyeuse. Pourquoi cette monstrueuse inégalité entre nous et messieurs les hommes ?»« Oh, mais je ne veux rien vous imposer, chère dame. Et si j'ai l'air de vous enlever ce que vous appelez l'égalité, c'est pour vous assurer, au contraire, l'égalité véritable, ou plutôt la supériorité, la royauté élective et renouvelée tous les jours dans la maison dont vous êtes la souveraine. De même, celle d'entre vous qui, en se décolletant et en offrant au regard de trop fortes échantillons de leur charme, se trompent si elles croient faire naître ainsi l'amour. Elles ne peuvent qu'exciter les fantaisies lascives, des désirs violents peut-être, mais passagers, peu faits pour flatter un orgueil honnête. Elle me rappelle ce prédicateur qui disait à propos de l'amour « Encore, si ça durait un siècle, ces voluptés profanes, si ça durait un an, si ça durait un jour, si ça durait une heure, on comprendrait peut-être qu'on les paya de son salut éternel, mais non, Zog, 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 et damné. Soyez certaine, chère madame, que l'on a envie d'entrer que dans les maisons fermées. La femme non seulement la plus honnête, mais aussi la plus heureuse, est celle dont on ne parle pas, comme on a dit. Heureuse la nation qui n'aurait pas d'histoire. Il est un autre point auquel ne paraissent pas songer les femmes qui veulent à tout prix faire parler d'elles. C'est que, grâce à la soudaineté de leurs impressions, grâce à l'irresponsabilité de leurs actes, il n'y aurait pas moyen de les admettre dans la société si la loi et les usages ne leur donnaient un éditeur responsable à qui l'on puisse demander satisfaction de certains excès de langue et de certains procédés violents, le mari, le père, le frère, au besoin même l'amant, celui-ci avec certains détours et certaines précautions. La responsabilité qu'elles font encourir devrait, ce me semble, suffire pour les faire réfléchir à l'occasion. Madame la princesse de Metternich avait, sous l'Empire, fini par appartenir à la publicité. Les journaux décrivaient régulièrement ses toilettes et publiaient ses mots. Elle s'amusait de ce bruit, de ce froufrou de ses jupes et de sa langue, et l'encourageait. Si bien que je ne crois pas aujourd'hui sortir des convenances en parlant d'elle, moi si réservé d'ordinaire sur le chapitre des femmes, qui ne parle jamais dans les guêpes ni de femmes honnêtes, par respect pour elles, ni des autres, par respect pour moi. Eh bien, grâce à cette habitude de parler haut, de parler à la cantonade, d'être toujours en représentation, Madame de Metternich vient d'amener entre son mari et le comte de Montebello un duel qui, par hasard, n'a pas eu de conséquences funestes. Autre exemple. Il est de ce temps-ci une autre personne qui a provoqué, obtenu, escaladé la notoriété avec plus d'ardeur et de préméditation et par les moyens plus violents. C'est Madame Ratazzi, Madame de Solin, qui s'appelait avant son second mariage la princesse de Solms. Elle a, à propos d'une de ses publications, failli, dans le temps, faire battre son frère et son premier mari avec quelqu'un que je ne nommerai pas, et un roman publié par elle dans les dernières années de l'Empire a attiré à son second mari, Ratazzi, 20 provocations auxquelles il a cru pouvoir ne pas répondre, sans quoi ce serait probablement d'un coup de pistolet ou d'un coup d'épée qu'il serait mort.